Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante en ce vendredi 10 novembre 2023. On est ensemble pour la dernière de la semaine, comme il se doit, avec toute l'équipe de Time Sport pour m'accompagner. Début de week-end pour certains et pour d'autres. Eh ben demain, on ira travailler. L'OM en conquérant, eh oui, grec. C'est digne de l'Iliade ou encore des récits d'un certain Homère. Sans oublier le TFC, et oui, Toulouse, et cette ville rose que nous accueillerons justement dans ce magnifique studio de Beurre FM, et aussi les Rennais du Roi Zone Park. Ils ont fait plaisir ces clubs français dans cette deuxième partie de la semaine, dans Coupe d'Europe, on rappelle, en Europa League et en Conference League aussi, et les matchs de NBA de la nuit. Voilà, ça c'est le programme de ce soir. Rien de plus simple pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport, le 01 53 48 3000. D'ailleurs, on rappelle le débat du jour comme il se doit, rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs. Les hommes de Gattuso sur la bonne voie selon vous? Eh ben oui, on se la pose, il faut se la poser cette question. Mathieu, qui sera présent avec nous ce soir, nous disait: Bilal, il faudrait être patient avec cet Olympique de Marseille. Eh ben, on va l'être avec cet Olympique de Marseille, tout comme Abdel Samitage, qu'on peut retrouver chaque soir. Eh ben oui, il vient dans l'émission Les Informés, ça revient lundi avec toute l'équipe d'Adil Farkan, et qui nous dit: Abdel Sam, viva l'Olympique de Marseille. Voilà, un petit clin d'œil aussi à Christian qui nous accompagne tout au long de cette émission dans ce studio. On le rappelle, le numéro du stand qui est le 01 53 48 3000. Allez, c'est parti, on va présenter la fine équipe qui nous accompagne ce soir.
Time Sport. Les pourparlers.
Il y a un trio d'attaque ce soir. Il y a un beau trio d'attaque. Voilà, ils se reconnaîtront, ces gars, avec Vivien, la personne de Mathieu, et sans oublier aussi Bendy pour ce vendredi soir. C'est pas un trio d'attaque du Paris Saint-Germain, mais plutôt version NBA. Wemby, LeBron ou encore Kevin qui nous accompagne ce soir. Bonsoir. Comment ça va, Bendy?
Mais ça va très bien. C'est la MSB qui est présente ce soir.
C'est ça,
bon,
la MSB.
Voilà,
le trio
d'attaque. Il déchire,
Bendy.
Non, mais ça va très bien. Bon, je vais passer mes galères sur la route aujourd'hui, un bordel pas possible. J'ai fait le tour d'Île-de-France, j'ai passé ma journée en voiture, je suis au fond du trou, mais on va vous accompagner si vous êtes bloqué également, tout comme je l'ai été cet après-midi en voiture ou dans les transports. On va être là pour parler football.
Ah ben c'est super, Soufiane juste en face de Benji. Bonsoir Soufiane, ça fait plaisir de t'avoir avec nous.
Ben ouais, ça fait plaisir d'être là comme à chaque fois, hein. Je passe le bonsoir à tous les auditeurs
et à la famille, aux amis,
à tout le monde, à Cavalère si on m'entend.
Ah ben voilà, Cavalère. Bien sûr, on nous entend du côté du sud de la France.
Et je suis content de faire partir de ce magnifique trio d'attaque.
Voilà, là il y a un trio d'attaque. Et Cutworm même. On est avec eux aussi. Lui, il a le grand sourire aujourd'hui. Il me dit pas trop, mais on va directement se plonger dans le bain avec toi, Mathieu. C'est vrai, avec l'Olympique de Marseille.
Salut,
et pas que.
Salut tout le monde. Salut Bilal, et j'espère que tu vas bien, Bilal. Là,
ouais,
c'est...
ça va.
C'est la fin de semaine, donc on a encore un beau programme et de quoi s'amuser ce soir.
Oui, ben justement, il s'amuse avec nous tout au long de cette soirée. On pourra le retrouver avec Vanessa 21h, 23h. C'est Solal à la réalisation. Bonsoir Solal.
Buonasera a tutti. Alors, petite pensée à Benji qui a pris la voiture, et j'aimerais lui citer du Jodassin.
Donc, c'est sympa. Jodassin, c'est sympa.
À vélo, vraiment. Dans Paris, voilà. On dépasse les taxis.
Il est parfait ce Solal.
Voilà ce qu'il a fait.
Il est tellement multifonction ce soir. Mais qu'est-ce qu'il ne sait pas faire,
Solal, il sait faire beaucoup de choses. 2-0, c'est l'Olympique de Marseille hier soir, Solal. Ben oui, Abdelsam l'avait prédit aussi, un certain Chekib face à l'AOK Athènes. Ben les Marseillais, c'est bien dans ce groupe B. On rappelle, quatrième journée, Mathieu. Marseille remporte ce premier match à l'extérieur, excusez-moi, en Coupe d'Europe.
Oui.
En Coupe d'Europe.
Oui. C'est, on va prendre le cliché, la phrase basique. Le plus important, c'est les 3 points. Parce que c'est vrai qu'en termes de niveau de jeu hier, c'était pas ça.
Ah oui, selon toi, c'était pas ça.
Non, c'était pas ça. Beaucoup
le match était nul.
Non, pas nul, mais c'était pauvre techniquement des deux côtés. Moins du côté de l'Olympique de Marseille qui a réussi à s'engouffrer dans les brèches grecques. Donc. Non, le travail est fait et bien fait. On a eu encore un très bon Kondogbia qui revient très bien depuis sa blessure. Et j'ai beaucoup aimé Joaquin Correa, on en parlait hier. Dès qu'il a décroché un petit peu, qu'il est venu plus dans l'axe, il a apporté cette touche technique avec Amin Harit au centre du jeu. Et il a fait un très bon match. Maintenant, un peu déçu encore une fois d'Iliman Ndiaye hier soir.
Ouais.
Et comme d'habitude, la combativité de Vitinha devant qui a été.
Qui faut a lui eu... laisser le temps, Vitinha.
Faut lui laisser le temps. Il a eu un manque de réussite.
Aminarit, percutant. Eu... C'est Boula qui nous le disait
oui,
en début
été,
de semaine.
Il
tu t'en souviens
percutant, mais comme depuis raison, son Boula. Retour de blessure, il arrive à retrouver petit à petit son niveau d'avant blessure. Et puis Vitinha, il faut lui laisser du temps. Et puis il a eu un manque de chance aussi puisqu'il il tape le poteau en seconde période.
Ouais, Vitinha, c'est pas mal.
Mais voilà, donc c'était une très faible équipe grecque. L'OM a eu aussi des problèmes en termes de technicité. Il y a des transversales, des passes qui n'ont pas été bonnes.
Alors
mais c'était solide défensivement. Et à noter aussi le très très grand match de Paulo Lopez, parce qu'il a été énormément critiqué. Mais en deuxième période, s'il n'est pas
le
là, l'Olympique de Marseille prend 3-4 buts parce qu'il fait un très très grand match.
Mais c'était alors, pas beau Sofiane à voir,
mais ça, c'est des matchs qu'il faut aller gagner.
2-0.
C'est ça qui fait plaisir. Aller jouer à Athènes et tout, avec une ambiance de feu comme, il peut avoir, comme on connaît chez nos amis grecs. Donc ça, c'est des matchs qui font plaisir à voir, qui nous donnent de la confiance. Et c'est que ça va être que du bonheur par la suite, je pense, si on continue sur ce rythme-là. Avec une bonne entente et une combativité comme hier soir.
Il est sur la bonne voie peut-être. Gennaro Gattuso.
Je suis clairement d'accord avec l'analyse de Mathieu que je trouve très bonne. Je pense qu'il a mis les points les plus importants en avant sur le match. On continue à voir le schéma de Gattuso qui continue à se mettre en place. Ça, on commence à y voir plus clair au fur et à mesure, match après match, sur sa vision du football. Alors oui, c'était pas glorieux hier. C'est sûr qu'on n'a pas vu un grand Olympique de Marseille, mais on a vu un petit AEK à Athènes. Et comme on le disait en début de semaine, même si certains autour du plateau n'étaient pas d'accord, Marseille devait absolument et doit absolument sortir de sa poule. Certains me disaient Marseille, au début quand on voyait les poules, on disait Marseille ça finira dernier, Marseille ça passera jamais, et moi je le disais, ça va se jouer pour moi là, ils doivent jouer la première place jusqu'au bout face à Brighton, et c'est ce vers quoi on se dirige.
Après,
c'est vrai que j'aimerais aussi souligner le match XXL de Léo Balerdi en défense centrale.
Balerdi, selon toi, oui.
Il a été exceptionnel hier soir. Beaucoup d'interventions, peu voire pas du tout d'erreurs. Donc voilà, on en parlait hier avec Chekib qui aurait préféré Samuel Gigot. Mais hier soir, il fait un très très gros match Balerdi, et c'est bon aussi pour la confiance. Mais pour revenir à ce que disait Soufiane, c'est que.
Alors.
Oui, c'est des matchs qui sont importants à gagner, et on en avait parlé avec Benji il y a plusieurs semaines. C'est vrai que je préfère un match comme ça où certes la qualité est un peu moins bonne, mais il y a les trois points au bout plutôt qu'un super match mais défaite.
Après, donc, avoir sur la durée, c'est comme
à
tout.
Voilà, sur la
si
durée.
Tu prends trois points comme ça et que derrière tout le reste de la saison tu n'arrives pas à prendre les points, ça sert à rien. Il faut quand même construire quelque chose, il faut qu'il y ait une identité. Et ce que j'en ressors aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on a eu plein de joueurs de l'OM qui étaient très bons individuellement.
Alors
et que collectivement peut-être il manque encore un petit peu cette alchimie. Arrive à ressortir pas mal d'individualités. Ils ont dit, il a fait un bon match, il a été percutant, il a été solide, mais collectivement peut-être il manque encore un peu ce lien que Gattuso amène, et peut-être que c'est son schéma tactique aussi qui
prématuré,
veut ça, qui
peut-être,
met peut-être
Benji
un petit peu plus en avant, mais bien sûr, on analyse vraiment
Gattuso,
le match tel qu'on l'a vu. On n'est pas là non plus pour dire prématuré.
Après il faut pas oublier d'où ils reviennent,
bien sûr, mais c'est très bien, moi je salue.
D'où Marseille revient là, c'est incroyable. Franchement, on tient la route quand même, parce que
par rapport à Marcelino, ça n'a rien à voir.
Le coach qui parle, les incidents, les problèmes au club avec Eva Longoria, avec les supporters.
S'il vous plaît, on rappelle.
Je suis un petit peu égaré, je suis désolé.
On l'excuse. S'il vous plaît, messieurs, soyez indulgents. Il nous vient du cinéma. Il nous vient du 7ème art. Tu t'arrêtes, Vivien. Arrête un peu. C'est pour ça qu'il pensait à Ballon Gourria.
Non, mais tu vois, justement,
je pense qu'il a fait plus que penser.
Je suis plutôt d'accord avec toi, Soufiane, quand tu dis ils reviennent de loin. Et puis, et on se rappelle aussi quand Gattuso a été nommé entraîneur. Beaucoup de critiques avant même qu'il ait pu mettre son jeu en place. Et là, on voit que, certes, peut-être que des fois dans le jeu, c'est encore un peu brouillon, mais on en parlait hier avec Vivien. Et dans ces matchs européens, il y a la grinta, il y a cette envie d'aller à chaque duel, il y a au pressing, etc. C'était pas une équipe en dilettante. Certes, il y a quelques justesses techniques encore à corriger, mais on a vu des guerriers sur le terrain, et je parlais justement de Vitinha. Vitinha, c'en est un, et c'est une vraie équipe de Coupe d'Europe qu'on a vu hier, à l'image du TFC contre Liverpool.
Tu
aussi
vois les faiblesses, moi je les ai plus vues dans le placement, dans les combinaisons, dans la recherche du partenaire, que des grosses erreurs individuelles de la part des joueurs marseillais. Donc je pense que ça se met en place et qu'on arrivera à quelque chose de mieux en mieux. Et je vois toujours du mieux. Alors oui, c'est sûr que c'est pas le match contre Athènes où on se dira franchement l'OM sauvé, l'OM guéri à 100%, mais au moins c'est des matchs que tu gagnes, comme tu le disais, c'est des matchs où tu vois quand même des choses, où t'as du potentiel, et moi voilà, je pense que l'OM est sur la bonne voie, file de gauche, appel de phare, et on espère qu'il n'y aura pas besoin de déboîter sur la droite.
Ça, c'était toi tout à l'heure, non, sur la route,
hein? Exactement, moi j'étais plus à l'arrêt avec les feux détresse.
Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, et puis c'est vrai que bah, dimanche soir ils vont jouer à Bollard. Donc, deux équipes entre Lens et l'OM, deux équipes qui sont en difficulté en championnat, mine de rien, et Lens qui sort d'une défaite à Eindhoven. Donc, déjà à voir la réaction des Lensois devant leur public et à voir comment les Marseillais vont pouvoir travailler ces 2-3 jours pour essayer d'aller gagner à l'extérieur en Ligue 1.
Je suis d'accord.
Oui, d'accord avec ça. Viens, viens, qui nous a rejoint.
Bonsoir. Après, c'est, bah, dans ce qui a été dit, j'étais assez d'accord. C'est vrai que bah, l'OM, moi j'attends encore le 11 team, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessés en début de saison. C'est peut-être ça aussi. Et puis, devant, bah, si on veut t'exiger, on voit que Aubameyang, bah, en ce début de saison, il est l'ombre de lui-même. Et Vitinha, bah, je sais pas, il est peut-être limité. Enfin, j'ai écouté Gattuso hier qui disait, en gros, faudrait qu'il ait plus le sourire, qu'il se relâche un peu plus. Enfin, c'était un peu la manière dont il voulait le dire en conférence de presse après le match. Donc, on voit un Vitinha très tendu et c'est pour ça que ça monte un peu ce qu'il a loupé hier soir. Donc, c'est.
Ouais, mais tu vois, Vivien, par exemple, Gattuso, tu parlais de sa conférence de presse. Juste avant ça, il disait, j'ai l'impression que dès que vous me posez une question sur Vitinha, vous pensez que je l'aime pas alors que je l'adore. J'ai l'impression que vous cherchez à chaque fois la petite critique ou la polémique envers Vitinha quand vous me posez une question. Donc ça vient
ça
peut-être
aussi. Ça sont d'autres journalistes.
Ça vient, oui, mais ça vient.
On n'est pas comme ça, nous, sur Beurre FM.
Ah non.
Pas toi, surtout pas toi.
Surtout pas toi.
Mais
tu vois, j'ai l'impression que dès qu'il y a une question sur Vitinha, c'est pour chercher la petite bête parce qu'il a raté.
Parce que c'est le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM aussi, tu vois.
Mais il est super jeune, il a arrivé.
Oui, il faut qu'il s'acclimate.
Il est arrivé l'hiver dernier, il a quasiment pas joué de la deuxième partie de saison pour lui laisser un petit peu plus de temps et on lui met un mec comme Pierre-Emerick Aubameyang dans les jambes.
Ouais, mais il faut qu'il réponde présent parce qu'Aubameyang, voilà, comme on le disait, c'est l'ombre de lui-même en ce moment. Donc,
mais il reste titulaire
malgré
tout.
C'est normal qu'il ait la pression, Vitinha. Après, voilà, c'est à lui de prouver qu'il a la capacité de pouvoir jouer dans un club comme l'Olympique de Marseille, de pouvoir planter et de pouvoir être là pour faire le geste juste. Et donc, c'est aussi normal quand t'es le numéro 9 d'une équipe européenne d'avoir de la pression et les grands joueurs, ils arrivent à passer outre. Et j'espère que Vitinha arrivera à passer outre. Et parce que voilà, c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve que voilà, c'est un joueur que je trouve intéressant à voir jouer dans ses déplacements. Quand il était au Portugal, c'est vrai qu'il fait une saison qui est absolument fantastique où il est toujours bien placé, toujours le geste juste dans la finition. Et c'est ce qu'on attend qu'il arrive à faire à l'OM. Et c'est aussi le travail de Gattuso, comme on disait, des joueurs bons individuellement. Mais peut-être ce collectif, faut mettre Vitinha un peu plus dans sa zone de confort pour qu'il puisse se régaler. Et une fois qu'il trouvera
puis il n'est pas arrivé dans des bonnes conditions à Marseille, hein, là, aussi. Il faut le mettre dans des bonnes conditions et j'espère que Gattuso il va réussir à trouver la formule magique. En tout cas, je voulais faire un gros big up aux supporters, rien à voir, mais aux supporters Toulouse. Hein. Ouais. La banderole est incroyable.
On va parler de
Toulouse. Si
tu es
habillé en violet, c'est pas pour rien. Ouais. Voilà.
Surtout, Klopp, il a gardé un très bon souvenir. Je pense qu'il va beaucoup retourner à Toulouse.
Ouais, c'est surtout dans la conférence de presse de Klopp qui a interrompu parce qu'il y a des supporters qui chantent.
C'est ça. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Pas comme le Paris Saint-Germain ou encore les Lensois, malheureusement, cette semaine.
Ah ouais, les Lensois, ça va, ils ont été combatifs quand même. Franchement, le match,
tu parlais des supporters toulousains, moi je tiens aussi à féliciter les supporters d'Athènes et les supporters marseillais. Exactement. Qui sur la double confrontation ont réussi à vraiment montrer que les supporters de clubs rivaux arrivent à cohabiter et à faire un très beau spectacle en tribune.
C'est vrai.
Ouais. Bah là aussi ça posera peut-être. On reviendra sur ce match-là parce qu'on a beaucoup de réactions qui sont intervenues, excusez-moi, sur le OM Lyon. Hein, on a des personnes du club. Oui, on en a parlé toute la semaine, mais c'est vrai. Ouais, mais ça revient. Benji. Il y a beaucoup de personnes, des supporters. Il y en a qui s'attendaient à des sanctions envers l'Olympique de Marseille, mais non.
C'est la faute des Lyonnais. Presque avec les déclarations qu'il y a eu de la préfecture, etc. et tout, où ils disaient que le match se rejouera à l'OM, il faudra penser à mettre du double vitrage vraiment du côté de
en tout cas, ce sont énervés, ça c'est sûr.
Au conducteur du bus, hein, vraiment. J'en ai l'air de dire, les Marseillais n'ont rien à voir, la préfecture n'a absolument pas merdé, la FFF n'a absolument pas merdé dans la construction de cet Olympico. C'est les joueurs lyonnais, voilà. Non mais c'est vrai qu'ils auraient dû dormir à l'hôtel une semaine avant, venir séparer, venir à vélo. Enfin, tu sais pas dans quel mindset faut être. C'est complètement débile. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut avoir quand tu as ce genre d'incident, il faut prendre des mesures fortes et pas
à chaque fois se rejeter le bébé à l'un, à l'autre. T'as la LFP qui récupère le bébé, qui le renvoie à la préfécture qui te le renvoie du côté, ouais, du côté de, enfin, de l'OL, on dirait une attaque du rugby.
Ouais, mais tu vois, ben, c'est
là, ouais, Mathieu.
Là, je comprends ton point de vue dans le sens où c'est limite, on dit que c'est de la faute limite des Lyonnais. Donc
je caricature, mais on n'est pas loin.
Je suis d'accord avec toi que c'est assez scandaleux, mais par contre, qu'est-ce que tu veux que l'Olympique de Marseille soit sanctionné? Ça a été fait en dehors du stade. Comme j'ai déjà dit ici, l'Olympique de Marseille, c'est pas l'Olympique de Marseille de gérer ses supporters en dehors du stade.
Non, mais c'est à la Ligue, c'est la préfecture.
Je suis d'accord avec toi. Maintenant, j'aurais trouvé ça dur que l'Olympique de Marseille ait des sanctions par rapport à ce match-là.
Non, mais que t'aies un match à huis clos, mais pourquoi huis clos? Parce que ça reste quand même un groupuscule de supporters, voilà, que tu le veuilles ou non.
Le gamin de 8 ans qui va vivre son premier Olympico,
s'il est lyonnais
pour rien.
Mais évidemment, je suis d'accord avec toi, mais au bout d'un moment, si le quart des supporters lyonnais est attaqué, c'est parce que c'est le club ennemi, c'est parce que c'est un Olympico, c'est parce que c'est un club rival, donc c'est qu'il y a vraiment un lien quand même avec l'Olympique de Marseille, que tu le veuilles ou non. Moi, ça me fait chier. Je suis le premier à dire que ça me fait chier de sanctionner un club, de sanctionner des supporters qui n'ont rien demandé, mais malheureusement, si tu fais pas de sanctions, c'est genre toi qui vont.
Je suis d'accord avec toi, mais après,
on a pris des points de pénalité.
C'est compliqué de prendre une décision dans cette situation. Tu veux pénaliser l'Olympique de Marseille, mais ça. Enfin, pour moi, ça n'a pas trop de sens parce que ça ne s'est pas passé dans le stade. Donc, pénaliser le club, je ne vois pas l'intérêt.
Ouais.
Par contre, pénaliser peut-être, si tu veux, il faut trouver une solution pour moi. C'est comme, comme je dis à chaque fois, que les groupes de supporters ne viennent plus à l'extérieur supporter leur équipe. Moi, je trouve que ça, je suis d'accord. Mais de là à pénaliser, je sais pas, un match à huis clos ou enlever des points à l'Olympique de Marseille, ça n'a pas de sens. Et puis c'est difficile pour la préfecture, pour la LFP, ça se passe aux abords du stade.
Mais
à un moment donné, il y a une faille dans la sécurité.
Avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, on n'est pas capable de retrouver les mecs qui ont fait ça.
C'est scandaleux, ça, on sait qu'on peut le faire. C'est juste qu'il ne veut pas.
Allez, un grand merci pour ces réactions dans ce premier dossier. On revient rapidement après une courte pause avec toute l'équipe de Time Sport.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Eh oui, des petits dédicaces. Nous pensons à Lulu, sans oublier Marie. Bien allez, sûr. Voilà, toujours. Il y a Nantes qui nous écoute. Un petit clin d'œil aussi à Didier Kim. Voilà, ce soir, on nous écoute du côté de Nantes. Sans oublier, il y a qui? Il y a Nordine, il y a Amel, il y a Malik. Voilà, Malik, il est en métro et il écoute via l'application Beurre FM.
Mais
aussi,
courage.
Le site internet beurrefm.net.
Ça sera moins bouché sur la route.
48 3000, c'est le numéro du standard. Place, allez, aux autres clubs français.
Time Sport. La parole des sociaux.
Alors on va la donner à notre réalisateur Toulouse et Rennes qui font plaisir au football français et aussi à cette Ligue 1 Uber Eats qu'on pourra retrouver dès ce week-end. On t'écoute sur l'AL.
Oui, tout à fait. Bah écoutez les amis, hier de 20h à 21h, donc je réalisais les confidences de Vanessa. Ça fait pas de mal de le rappeler. Écoutez, ça fait toujours plaisir. Et donc j'ai pas pu regarder le match en direct.
Ouais.
Donc je suis rentré chez moi tranquillement. Je me suis fait à manger. Là j'ai regardé donc les highlights du match. D'ailleurs, c'est une vidéo qui est en top 1 tendance sur YouTube. C'est exceptionnel pour du coup le club toulousain.
Ouais.
Et j'ai été vachement surpris. Donc les amis, je vous invite franchement à écouter ce deuxième but de Dalinga. L'ambiance au stadium, c'est vraiment incroyable.
Luis Diaz, pressé par Logan Costa.
Très bien coulé.
Ciro.
Il y a cette ambiance.
Ah bah ouais. L'ambiance. Ça te rappelle le vélodrome?
Non. C'est mieux que le vélodrome.
C'est un grand au-dessus du vélodrome, s'il te plaît.
C'est le volcan.
Les supporters, ils sont incroyables.
Par contre, excusez-moi, là, je suis en train de voir la passe décisive de Karim Benzema.
Je suis en train de regarder le live de Karim Benzema.
La passe
décisive. Oh là
là. Excusez-moi, là, j'ai des feelings de Benzema à Lyon, excusez-moi.
Non. Ah, c'est Jouba, sors de ce corps, hein, parce que là, tu vas nous faire encore une Géopole et c'est pas bon. On revient en France.
Twitter,
on laisse le championnat saoudien et on reviendra, c'est promis. Concernant la Ville Rose, le stadium, les Toulousains et aussi les Rennais, hein, Benji, ils font plaisir. 3-2, ils ont résisté, hein, les Toulousains.
Face à Jürgen Klopp et ses hommes. On a eu une semaine de Ligue Europa, comme on en aimerait voir beaucoup plus pour les clubs français. On a vu de l'envie. l'envie, on a vu de l'ambition. On avait une équipe de Toulouse, mais qui m'a régalé, que ce soit l'ambiance, que ce soit les joueurs sur le terrain qui mouillaient le maillot, qui jouaient ensemble, qui n'ont, en plus de ça, mais qui ont vraiment bien joué au football. On parle, c'est quand même un exploit. Enfin, on va prendre un peu de recul sur la situation. Ouais. On parle quand même d'un club qui était encore en Ligue 2 il y a deux ans de ça, pour le TFC, face à une équipe qui met en moyenne 90 points par saison en première ligue, qui est une équipe taillée pour jouer la Ligue des Champions et même les premiers plans en Ligue des Champions, qui est favori de cette Ligue Europa et qui va gagner à domicile 3-2, qui a dominé le match dans le sens où ils n'ont jamais été menés au score de toute la rencontre. J'ai pris un pied pas possible. J'ai vu une rencontre de football, une grande compétition européenne, et il faut savoir que la dernière grande victoire de Toulouse comme ça en Coupe d'Europe, c'était face au Napoli en 86. Ça remonte. Et,
ouais, avec
et
Maradona qui loupe un penalty.
Exactement. Je ne sais pas si Bilal était né, mais
on aime le football, on aime l'histoire de notre sport, et donc c'est des moments mythiques. Et je pense que ça pourra rentrer dans cette même classe que cette victoire face au Napoli. J'ai pris un pied pas possible. Je suis encore sur un petit nuage pour nos amis pour nos amis les violets.
Ouais, il y a eu une époque où justement on s'en foutait un peu ces entraîneurs français, même ces clubs français de cette Ligue Europa, et maintenant on a l'impression qu'on dirait on veut les jouer à fond. Peut-être, on l'espère en tout cas.
On veut les jouer à fond. Oui, Mathieu. On l'a vu sur les résultats d'hier soir, hein, sur l'ensemble des clubs français.
C'est ça, les Lillois, Bratislava, un but partout.
Voilà,
c'est ça.
J'aurais un petit coup de gueule sur les Lillois juste après Bilal. Mais mon premier coup de gueule, c'est sur Jürgen Klopp et sur Liverpool. Parce que, Toulouse a fait un super match. Oui. Toulouse a mis la qualité, a mis les ingrédients d'un match de Coupe d'Europe. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure avec les Marseillais, il y a eu de l'engagement, il y a eu du beau jeu, tout ce que vous voulez, solidité défensive malgré les deux buts encaissés. Mais la composition de Liverpool, de faire tourner à ce point-là,
moi j'ai envie de dire justement, ce genre d'équipe, même en faisant tourner, doivent être capables de proposer
bien
mieux.
Bien sûr,
c'est ce que j'ai envie de dire.
Ouais, quand tu vois l'équipe à la fin du match,
c'est que la performance de Liverpool n'est pas assez.
Mais à la fin du match, pourquoi tu ne mets pas tes joueurs titulaires dès le début du match?
Franchement, je trouve dur. C'est quand même des joueurs, même si c'est des joueurs qui sont, on va dire, un bis à leur poste, ça reste des joueurs.
Gakpo, il doit faire mieux hier soir.
Voilà,
Diaz, il doit faire. Parce que c'est ce genre de joueurs qui, à la fin
sur le terrain.
Exactement.
C'est ce genre de joueurs qui ne jouent quasiment jamais en première
ligue. Oui, mais qui vont réclamer plus de temps de jeu, qui vont à la fin de saison demander à de partir, etc. Donc moi, quand je vois le 11 de Liverpool,
regarde, c'est très simple, au match aller il a fait tourner certes, mais beaucoup moins, et ils ont gagné 5-1. Et Toulouse a pas fait un mauvais match, hein.
Ça a été plus compliqué quand même.
Oui, mais Toulouse a fait un bon match au match aller. Ils ont fait un bon match.
5-1, c'est un bon match.
Pourquoi? Parce que, comme j'aime le dire, il a moins fait tourner.
Non, mais là, je suis d'accord avec toi, parce qu'il a pas respecté Toulouse, peut-être en faisant tourner. Il s'est dit, ça va être facile. Mais là, du coup, Toulouse, c'est comme ça. On les a pris à contre-pied, le club de Liverpool, et en plus de ça, les supporters étaient là, l'ambiance était là, c'était quelque chose de fou.
Encore une fois, je te répète, je n'enlève en rien la qualité des supporters, la qualité des Toulousains sur ce match-là. Ils ont fait un super match de A à Z. C'est juste que, j'aurais bien aimé voir une équipe type de Liverpool au Stadium.
Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où, pour moi, c'est pas une question de... Pour moi, l'aspect limite où il n'a pas respecté,
je mets des guillemets.
C'est ça qui m'énerve. Je suis même pas d'accord, je mets des guillemets sur respecter. Pour moi, c'est juste dans le sens où il est peut-être resté un petit peu trop sur ses acquis du match aller d'un point de vue technique, tactique, en se disant
qu'il
pouvait refaire la même chose et que ça allait passer tranquillou parce qu'au match aller il n'y a pas eu de difficulté. Excuse-moi, les joueurs sur le terrain, ça me choque pas. Donc t'as pas, peut-être pas toute l'équipe type de A à Z, mais t'as des joueurs quand même, c'est pas tous des remplaçants, c'est des joueurs aussi qui ont déjà des titularisations en première ligue, c'est des joueurs qui rentrent très régulièrement en première ligue. Excuse-moi, quand tu vois l'équipe à la fin du match, et elle ne doit jamais perdre contre Toulouse, c'est pas Liverpool seulement qui a mal joué, c'est Toulouse qui tactiquement a dominé Liverpool, qui a peut-être été un petit peu en dilettante, mais c'est d'un point de vue tactique, et tactiquement Toulouse était au taquet, était précis dans leur jeu, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Il y a eu un peu de réussite aussi, parce qu'il en faut pour faire des exploits, mais honnêtement, le match de Toulouse que j'ai vu hier, dans tous les aspects du jeu, je les félicite, et pour moi, peu importe l'équipe de Liverpool qu'il y avait en face, parce que je la trouvais très bonne,
c'est
une victoire majeure.
Ouais, Vivien, on t'écoute, avant de donner la parole, revenir aussi à Mathieu et sur l'âme.
Bah, sur le match, quand on voit un peu les stats, faut quand même rappeler que Liverpool a 74% de possession. Mais justement, je crois qu'ils ont été, et moi j'appelle ça un peu une possession stérile, c'est-à-dire, ils ont beaucoup eu le ballon, Liverpool, mais finalement, il s'est pas passé grand chose. C'est là où j'étais assez déçu des Reds. Donc, et bien sûr, autour de la table, on est tous contents pour Toulouse. Et Toulouse a fait ce qu'il faut. Ils n'ont pas reproduit les quelques fautes un peu directes du match aller à Liverpool, en Angleterre. Et c'est vrai qu'ils ont mis les ingrédients. Et moi, quand je vois ça, j'ai envie de me dire, mais pourquoi ils n'arrivent pas à le faire plus souvent en Ligue 1? Enfin, je vois Toulouse, ils sont comme un 15e, 16e en Ligue 1 à peu près.
Parce que j'en parlais hier, Toulouse, c'est une équipe de coupe.
Ouais. Oui, mais même si t'es une équipe de coupe, tu peux au moins être dixième.
L'année dernière en Coupe de France, ouais, et là, depuis le début de cette Ligue Europa, on le voit très bien sur le match d'hier.
Oui, mais moi, aujourd'hui, si je suis d'entraîneur ou quelqu'un dans la direction du club, j'ai envie de dire aux joueurs, ok, vous êtes peut-être une équipe de coupe, mais je demande pas à Toulouse d'être dans le top 5, mais il y a une nuance entre être sixième et être seizième. Toulouse devrait être autour de la huitième, neuvième place, exactement. Exactement. Et là, moi, c'est ça que j'ai envie de voir.
Après, il y a peut-être beaucoup de matchs où ils se retrouvent à être beaucoup plus le ballon et qui sont peut-être moins à l'aise aussi dans la construction du jeu. Peut-être que c'est aussi des aspects à travailler. Est-ce que tu te dis peut-être que même contre des équipes plus faibles avec des blocs plus bas, tu dis je leur laisse le ballon. Et moi je me mets sur un schéma tactique de contre-attaque, de pressing comme on l'a vu face à Liverpool hier soir. Ouais. Et c'est peut-être la stratégie qui paye. En tout cas, c'est la stratégie qu'a payé contre Liverpool que tu pourras peut-être te réadapter face au plus gros du championnat en Ligue 1. Et t'adapter. Faut se rappeler que tout le monde va changer de coach. C'est plus le même coach.
Peut-être que l'entraîneur espagnol a du mal à s'adapter à ça, justement.
Exactement. Parce
que ils ont plutôt des identités de possession et de jeu. Et même ce coach-là, peut-être que c'est vrai qu'il a eu un, deux mois pour trouver qu'il est encore en train de chercher.
Il faut quand même rappeler que, justement, tu parlais déjà de ce que tu disais, de laisser la balle à l'adversaire. Ils sont très bons en contre. La profondeur que prend Dalinga, le contre-pressing, le pressing. Et il faut rappeler qu'en début de saison, ils ont pris un point contre le Paris Saint-Germain. Donc face aux grosses équipes, ils arrivent à justement faire leur jeu, tout simplement, parce qu'ils savent qu'ils vont pas avoir le ballon, et du coup ça va être plus facile pour eux de contre-attaquer avec les fusées qu'ils ont sur les ailes, avec Dalinga qui prend la profondeur. Mais pour revenir à Jürgen Klopp et Liverpool, j'ai hâte de voir la composition de l'entraîneur allemand contre Links dans 3 semaines.
On verra.
J'ai pas envie de me faire d'ennemis auprès des auditeurs ou des auditrices.
Tu vas pas t'en faire, t'inquiète.
Toulouse a...
Ah, t'en as déjà beaucoup.
Ouais, il y en a juste Nasser qui vient d'appeler, mais ça va.
Toulouse a fait un match exceptionnel.
Ouais.
Voilà, ça n'enlève rien à la qualité du match de Toulouse et à ce qu'ils ont produit.
Bravo les Toulousains, avant de partir du côté de Rennes, bien sûr. Et pourquoi bien sûr sur
les gars, à tous vous entendre, franchement, on a vécu un match incroyable et je pense qu'on n'est pas les seuls. Toutes les personnes qui étaient connectées, que ce soit les supporters de Liverpool aussi bien que les supporters de Toulouse, parce qu'on les oublie pas, les supporters des Reds, ils ont vécu quand même un match où ils étaient menés 3-0. Ils sont montés à 3-1, 3-2. Et à la 95e, ils ont marqué l'égalisation.
Ouais.
Là, tout le monde...
Vu comme ça, pas faux.
Le temps s'est complètement arrêté au moment où on se posait des questions sur l'arbitrage vidéo. Et donc, quand les Toulousains ont appris que le but n'était pas validé, là, ils ont exulté. C'était l'effervescence. Hein,
ah, c'est incroyable. Soufiane, avant de donner la parole à notre consultant Nasser.
Moi, j'adore ces matchs-là. Ouais. Je m'en fous qu'il a mis l'équipe 2 ou l'équipe 3.
Ouais.
C'est l'émotion qui me fait kiffer. Moi. C'est pour ça qu'on regarde le football. Ça nous a fait vibrer, on a transpiré, on a douté. Et à la fin, on a vu des mecs sur le terrain qui se sont battus et ils ont arraché une victoire face à Liverpool quand même. Et c'est un match qui restera dans l'histoire du club de Toulouse et dans l'histoire du foot français,
bien sûr. Ouais,
donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Et vraiment, c'est un bel exploit à Toulouse. Et bravo Toulouse, quoi.
Bravo, justement, Nasser au 01 53 48 3000. Bonsoir Nasser, comment ça va?
Et bonsoir mes chers amis.
Bien Nasser.
Salut Nasser.
Ça fait plaisir de participer avec vous à cette émission. Je suis désolé, je devais venir, mais malheureusement, il y a eu un contretemps.
Ah oui, Nasser, un homme d'affaires, un homme qui fait, qui voyage de partout. Nasser, les Toulousains, les Rennais, Marseille, l'a fait. Ça va quand même. Mis à part Lens, c'est le Paris Saint-Germain cette semaine.
Ben oui, parce qu'on est satisfait ce soir, parce que en fait, on voit que le football français, malgré tout, se bat en Ligue Europa. On le voit avec Toulouse, qui a été quand même. Il faut le dire, un match historique, comme l'a dit tous nos consultants qui sont autour de la table. C'est énorme ce qu'ils ont fait hier soir, le TFC. D'ailleurs, j'ai félicité l'entraîneur adjoint qui est passé sur Beurre FM, Jordan Galtier, pour le féliciter de son travail. Parce que c'est extraordinaire. Battre le Liverpool, qui a encore récemment fait la finale de la Ligue des Champions, 3-2 en plus avec, s'il vous plaît, marquer 3 buts et 2 buts refusés. Franchement, qu'est-ce que vous voulez de mieux, quoi. Après, du côté de Rennes, bien sûr, ça continue. On va pas dire que c'est la Dolce Vita, mais c'est une équipe en dents de scie, en championnat pas trop mal, et puis en Ligue Europa, ça fonctionne bien. Alors effectivement, on a pu voir une équipe qui est concurrente, à l'image de Ludovic Blas, qui arrive du FC Nantes. Et puis, concernant l'Olympique de Marseille, hier soir, on l'a dit sur l'antenne, il n'y avait pas d'inquiétude, aller chercher un résultat à Athènes, c'est ce qu'ils ont fait, chose faite, 2-0. Et c'est bien pour la suite, et pour le football français, on est content ce soir, et ça fait plaisir.
Oui, non, il y a pas mal de résumés. Ben justement, alors, est-ce que tu penses, Nasser, autour de la table, que les clubs français peuvent faire un 6-6, c'est-à-dire l'objectif, c'est d'avoir 6 qualifiés?
Ouais, ça serait pas mal.
Est-ce que vous croyez tous au 6-6?
Ça va être chaud.
Ça va être compliqué, mais c'est possible.
Alors, concernant Vivien, le Racing Club de Lens, là où j'ai un peu plus d'inquiétude, c'est quand ils vont se déplacer du côté d'Arsenal. Parce que Arsenal, il faut pas l'oublier, au match aller, sont rentrés à Londres avec une défaite de 1, et je pense qu'ils attendent de pied ferme la revanche face au RC Lens. Et donc, ça va être intéressant à suivre, cette rencontre. Mais après, il y a la réception du FC Séville, et c'est là qu'on pourra peut-être éventuellement, une qualification du Racing Club de Lens, soit pour le second tour, soit pour le troisième, soit pour la Ligue Europa.
Ouais. Moi, Lens,
concernant Toulouse, il faut savoir qu'il leur reste quand même une victoire face à Union Saint-Gilles. Donc, il suffit qu'ils passent Union Saint-Gilles et franchement, c'est faisable. Et bien, ils peuvent se qualifier directement. Donc, pour moi, oui, c'est vraiment fort possible que tout le monde puisse se qualifier en Coupe d'Europe et pour le prochain tour.
Ouais. Oui, Mathieu, tu regardes de quoi? Bon, Mathieu, la Saudi Pro League, on est sur on tise même pas le. Ah oui, Benzema vient de marquer. Voilà. Mais on a perdu Benzema. Ouais, mais Lyonnais, c'est pas bon, ça souvient. Bon.
Non, mais après, non,
parce qu'il suit plus l'émission.
Non, mais
vu qu'on
a Nasser. Vu qu'on a Nasser et nous parlait de Jordan Galtier, quelles sont ses ambitions? Est-ce qu'il veut devenir coach un jour? Parce qu'il a mentionné ce nom. Je disais en blaguant, je questionnais, mais quelles sont ses ambitions vu qu'il le mentionnait?
Oui, en fait, c'est un garçon qui travaille dans l'ombre. Encore une fois, vous avez pu le voir sur la photo qui est apparue dans la presse française. Il est pas sur la photo quand vous le voyez au stade. C'est un garçon qui a travaillé, vous l'avez vu, qui a commencé en Gironde et qui est parti ensuite à Ajaccio, qui a prouvé avec les jeunes et ensuite en Ligue 2. C'est quelqu'un qui tout doucement commence à rentrer. C'est un garçon qui me fait penser un petit peu à un Le Bris ou à un Frank Heise. C'est quelqu'un qu'on va bientôt, je dis bien, quand je dis bientôt, dans les prochaines années très courtes, qu'on retrouvera en Ligue 1 et qui aura les manettes d'un club de Ligue 1. Je reste persuadé. Il a que 32 ans, je crois. Hein. Il est très jeune. Hein.
On va faire une courte pause, Nasser. On va revenir après. Ouais, tu gardes l'idée en tête. Il n'y a pas de problème, Mathieu. On va revenir avec Mathieu, Bendy, Soufiane et Vivien pour m'accompagner. Vous, les auditrices et les auditeurs, sans plus tarder, on parlera aussi de la NBA. Oui, de la NBA. Et on reviendra sur l'Horizon Park et les Rennais.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Voilà, toujours en live, 20h36 minutes pour la dernière de la semaine. Sans oublier aussi Vanessa qui arrive, qui est sur la route, qui se prépare pour son émission 21h, 23h. Allez, le 0153483000, vous faites comme Nasser. Il est toujours avec nous, Nasser. On va le faire réagir concernant les Rennais, cette fois-ci avant la NBA.
Time Sport, le mode pressing.
Voilà, là c'est une passe à l'aveugle pour décoder ce qui se passe. C'est Sola, le réalisateur, qui dit à Mathieu et à Vivien aussi que à Benji, ce soir il est de sortie. Voilà, venez avec lui. Hein, c'est un petit pas de danse. On revient, oui, Didier, c'est ça. Non, on va pas, Sofiane, hein, reste avec moi, tranquille.
Sûr, ouais. Sinon je pars maintenant.
Non, c'est très dangereux. Hein. Mathieu, on t'écoute. Tu avais quelque chose à nous dire avant la pause?
Par rapport à la réaction de Nasser, et puis à la question de Vivien sur la qualification des Français, Lille premier de son groupe, l'Olympique de Marseille premier de son groupe, le Stade Rennais premier de son groupe, Lens qui est troisième de mémoire, le PSG qui est deuxième et Toulouse qui est deuxième également. J'ai un peu plus de doutes sur le RC Lens, parce qu'il va, comme disait Nasser, il y a le déplacement à l'Emieux Stadium à Arsenal, mais c'est vrai que ça peut se jouer sur le dernier match à Bollard face à Séville, donc pourquoi pas, ça serait bien 6-6, mais un peu plus de doutes sur les Lensois, même si Même s'ils vont tout faire, je pense, pour essayer d'aller chercher cette qualification en huitième de finale.
On l'espère. Oui, Sofiane.
Ouais, bah, j'espère que les Lensois vont quand même réussir à sortir de ce groupe, ou au moins minimum la Ligue Europa, parce que franchement, ils le méritent. Les matchs qu'ils font, c'est incroyable. C'est sûr qu'en championnat, c'est pas ça, mais en Champions League, franchement, ils sont combatifs. Et franchement, l'équipe, elle est trop belle à avoir joué. Et hier encore, ils mettent le poteau dans les dernières minutes. S'ils plantent, ça fait match nul. Et là, je pense qu'ils auraient déjà eu plus de chances pour la qualification en Champions League. Là, ça va être un peu compliqué, mais il faut y croire. Mais moi, je voudrais souligner une chose avec tout ce qu'on dit. Là, c'est la première fois qu'on a six clubs. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu six clubs comme ça. Mais je trouve qu'il y a un vrai travail dans les clubs moyens, au niveau du centre de formation, au niveau des têtes aussi dans le club. Je prends l'exemple de Rennes. Rennes, ça fait combien de temps qu'ils travaillent sur leur projet? Ça fait maintenant, je pense, une petite dizaine d'années où il y a
ça fait dix saisons de suite, je crois
mais il y a un vrai taf chez les jeunes et tout, et c'est ça. Moi, je pense qu'il faut prendre exemple comme à l'ancienne l'Olympique de Lyonnais de Aulas aussi, avec leur centre de formation, et je pense qu'en France il faut tout miser sur ça, parce qu'on a des exemples. Il suffit d'aller juste en Allemagne en regardant les clubs comme Dortmund, ou en Espagne l'Atlético de Madrid et tout. Ils ont pas plus d'argent que certains clubs en France, mais ils arrivent à faire des résultats parce qu'il y a un vrai travail de fond, et je pense que c'est sur ça qu'il faut appuyer en France.
De vente, ça me travaille beaucoup plus intelligemment, peut-être mieux entouré, le personnel qui est un peu plus formé, un peu plus au courant de ce qui se passe sur la planète football, que peut-être dans certains clubs français qui pourraient être à leur égal, comme tu l'expliquais. Mais c'est vrai que du côté de Lens, moi je suis trop un amoureux de Franck Hayes pour ne pas voir.
Non, carrément.
Ah, mais je dis les termes.
Ah, là, c'est avoué là. Wow. Franck
Hayes, moi je trouve qu'en tant
qu'entraîneur
français,
on l'a déjà tenté.
En tant qu'entraîneur français, c'est le meilleur pour moi en France.
Je trouve même qu'il aurait mérité d'être champion de France l'an dernier, par exemple. Je trouve que Lens méritait de gagner le titre, par exemple.
En termes de jeu, en termes d'intelligence tactique, pour moi, c'est le meilleur entraîneur français.
Les Rennais face au Panathinaikos, quatrième journée dans ce groupe F.
Juste avant de parler de Rennes, Bilal, quelqu'un le disait autour de la table aussi tout à l'heure, c'est que ça fait un petit moment que les Français ne les jouent pas à fond, ces Coupes d'Europe.
Oui, bah c'est pour
là,
ça.
Ils n'avaient pas les moyens. Mais ils n'avaient pas les moyens.
Mais
moi, je parle des clubs français comme Rennes, comme Lens. Toulouse, pour moi, c'est plus un exploit. Marseille, c'est pas un exemple. Parce que je dirais par là, je trouve qu'en fait, ça travaille intelligemment, comme il disait.
Ça commence à comprendre un peu.
Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est là où en France, on pêchait. Parce que, oh les gars, en France, on a des joueurs de foot qui incroyables. On a un gros fief. Les meilleurs joueurs d'Europe.
Le problème, c'est que le sélectionneur Didier Deschamps l'a dit hier en conférence de presse. Nos très jeunes joueurs qui sont très très bons, ils partent très tôt à l'étranger aussi. Parce qu'il y a plus d'attractivité.
Parce que peut-être on
ne
les veut pas aussi.
On ne leur donne pas assez leur chance.
C'est le jeu. La chance, elle n'est pas donnée aussi.
C'est ton jeu. Première sélection.
Les Rennais, avant la NBA. On t'écoute.
Un petit mot sur Rennes. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore depuis le début de cette soirée. Et ça fait partie des clubs français qui ont fait un très bon match. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'équipe de Rennes est très vite réduite à 10 à partir de la demi-heure de jeu. Carton rouge de Bélocian, si je ne dis pas de bêtises. Et on a vu une équipe de Rennes ultra combattante, qui jouaient vraiment les uns pour les autres. Ça allait chercher un 6 mètres, un corner, ça se tapait la poitrine, ça jouait tous les ballons à fond. Et j'ai trouvé vraiment qu'il se passait quelque chose dans le jeu. Je trouve que encore ça se cherche un petit peu, même si on a vu beaucoup de mieux. Alors, mais j'ai trouvé vraiment une combativité absolument exceptionnelle. Ça peut être un match un peu plus haut, parce qu'ils ont beaucoup de mal en Ligue 1 cette saison pour le moment, alors qu'ils ont un effectif qui, pour moi, est dans le top 4, top 5 des meilleurs effectifs de Ligue 1. Et pourtant, c'est à la traîne. Et j'ai beaucoup, du coup, critiqué. Le travail de Bruno Genesio, ce que fait à Rennes, cette saison, parce qu'avec l'effectif qu'il a, il est censé aller chercher beaucoup plus haut, ce qui est un peu l'inverse de Lille, qui fait des bons résultats avec un effectif peut-être un peu moindre. Mais par contre, sur ce match hier. Alors je sais pas s'il fait les bons choix en faisant rentrer les bons joueurs qui sont décisifs, ou s'il fait le mauvais choix en les mettant pas titulaires, mais dans tous les cas,
ça lui donne raison.
Nasser, on revient à Nasser, Mathieu, t'inquiète pas. Alors.
Oui, bah, ouais, pour venir sur ce que disait Mathieu, c'est vrai que c'est une équipe qui a été combative, qu'on a vu, hein, une vraie équipe de qui vraiment a été costaud. Maintenant, on va voir dans les trois prochaines semaines, car je vous rappelle, bon, qu'ils vont recevoir l'Olympique Lyonnais dès dimanche. Ensuite, ils recevront encore Reims pour faire le plein et revenir, et comme disait Mathieu, dans le top 3, dans le top 4 du championnat. Et puis après, c'est surtout l'affiche du 3 décembre, parce que là, ils se déplaceront du côté du Vélodrome, et là, on verra si c'est une équipe qui est ressuscitée et qui peut aller chercher quelque chose cette saison, ou c'est une équipe, encore une fois, qui restera toujours à naviguer entre la 6e et la 8e place.
Je suis plutôt d'accord avec toi, Nasser, mais tu vois, pour revenir à Genesio, je pense que les joueurs qu'il fait rentrer, comme tu dis, ben, ils auraient dû être titulaires. Après, voilà, c'est le choix du coach. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient, comme tu disais, plus solidaires et ils ont été meilleurs à 10 contre 11.
C'est ça qui est incroyable.
Parce que la première demi-heure, à part la grosse boulette du gardien du Pana, ce sont les Grecs qui dominent et ils ont été meilleurs à 10 contre 11. Et enfin, les joueurs qu'il fait rentrer font la différence 3 minutes après leur rentrée. Et Ludovic Blas, qui n'est pas titulaire, quand j'ai vu la composition, j'étais assez.
Mais Guiri aussi, il n'était pas titulaire.
Oui, c'est vrai que Genesio, il manque un peu d'ambition. Aussi, même l'an dernier, c'est ce qui est un peu.
Avec l'équipe qu'il a, il doit faire beaucoup mieux en Ligue 1. Et là, j'ai fait un semi-compliment à Bruno Genesio, ce qui est énormément de me demander en tant que supporter lyonnais, sachant que j'ai eu beaucoup.
Il vous a fait gagner quelques matchs quand même.
Il est parti, bravo lui.
Nasser, un grand merci d'avoir été avec nous.
Écoutez, merci encore, ça m'a fait vraiment plaisir. Je voulais vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, vous le savez, c'est encore un week-end extraordinaire qu'on va vivre en Italie avec le derby romain entre la Lazio et la S-Roma. Et je peux vous dire que José Mourinho a crié dans le vestiaire.
Nasser, moi je peux te dire que là, tu fais des jaloux, et des jaloux. Et tout le monde veut venir en Italie. Hein. Voilà, je tiens à le rappeler.
Les gens viennent toujours jeter une petite pièce à la fontaine de Trévis, mais il y a la plage. Et puis pourquoi pas faire une émission spéciale Serie A, bien sûr, mais du côté de Rome, B de Time Sport, tous ensemble, autour d'une table. Ça serait magnifique.
Mathieu, si Sophie,
c'est quand tu veux.
On va essayer de le faire.
Avec plaisir, franchement, ça serait bien. Ça serait super que vous puissiez venir. Et au lieu que ça soit sur Paris, on le fasse là-bas. Ça serait magnifique. Avec des invités demain. Pourquoi pas Guendouzi?
Bien sûr, à voir.
On est en contact.
Bien sûr.
On est en train de perdre Mathieu.
Mathieu, oui, Nasser fait toujours des heureux et des heureuses. Merci Nasser.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
On a perdu Nasser.
Allez, il est déjà chaud Nasser, mais nous aussi pour la fin de cette émission avec la NBA, c'est ça? Oui, avec la NBA, la NBA, non, parce que je m'attendais à un petit. C'est moi, c'est la dernière partie. C'est 1B, c'est ça, les Spurs qui rencontreront un autre français, Gobert des Timberwolves. Un duel passé peut-être au crible ce soir avec nos spécialistes du sport US. Oui, tu veux te lancer ou Vivien? On va le lancer, Vivien. Vas-y. Allez, fais-toi plaisir, Mathieu.
Ouais, ça va être déjà, il va falloir faire une petite photo à l'entre-deux. Parce que on va voir.
Ça, c'est sûr.
Wemby et Rudy Gobert côte à côte, enfin face à face. Et non, ça va être plutôt sympa. Ça va être à voir la réaction des Spurs après leurs deux défaites consécutives, la grosse défaite contre Indiana, 155 points encaissés, la défaite aussi au Madison Square Garden où ils en prennent 20 ou 25 de mémoire. Et puis les Timberwolves en face, ça fait un très très bon début de saison. Le dernier match de Rudy Gobert à 17 points, 21 rebonds et 3 contres de mémoire. Donc, je pense que Rudy Gobert et les Timberwolves sont favoris sur ce match. Après, on attend de voir aussi des étincelles entre les deux Français. Et à rappeler quand même que, n'en déplaise à un certain Draymond Green, Rudy Gobert est un très bon défenseur et il l'a gagné 3 fois le titre de meilleur défenseur.
Ouais, pour moi, c'est ce que je vais regarder plus. C'est la façon dont Rudy Gobert va essayer de canaliser notre cher Victor Wembanyama. Parce que c'est vrai que depuis le début de saison, on a beaucoup de joueurs qui s'y frottent. Et on se rend compte que ça pique hein, de, le Wembanyama. Hein. Donc j'ai très hâte de voir ce duel franco-français, bien évidemment, et la façon dont Rudy Gobert va montrer sa capacité de défenseur d'élite, et même la façon dont Wembanyama va réussir à bien switch entre les différents joueurs défenseurs joueurs des Wolves, à mettre la pression, voilà, quand Rudy Gobert va essayer d'aller finir près du panier, mais aussi pourquoi pas essayer d'aller mettre la pression par moment sur un Anthony Edwards quand il va prendre un shoot à 3 points, le laisser shooter trop facilement, et surtout de la dissuasion près du panier, parce qu'Anthony Edwards, qui est un joueur absolument fantastique, si vous l'avez jamais vu jouer, je vous invite vraiment à le regarder jouer, parce que c'est
extraordinaire.
C'est un joueur absolument sublime qui fait partie du futur de NBA comme Wembanyama. Donc un match un peu dans le futur, un futur match peut-être entre deux très grands joueurs, qui sont déjà deux très grands joueurs. Un qui a déjà plus prouvé que l'autre, forcément. On va laisser du temps à Wembanyama, même si on voit de très belles choses.
Justement, laisser du temps.
Qu'on est très heureux de voir prendre son envol au fur et à mesure.
C'est ça, il fait ses matchs, Benji, Mathieu. Je m'adresse à toi, Vivien. Ouais, on le laisse tranquillement et ça va sereinement.
Clairement, il est en course pour être rookie de la saison avec Chet Holmgren. Ça va être une lutte assez serrée, je pense. Ça va dépendre peut-être du nombre de matchs. Donc, pour moi, pour Wemby, les voyants sont en vert. Il confirme malgré évidemment. Tout. Équipe, moi je pense que malheureusement, je pense qu'il y aura pas match parce que pour moi, les Wolves ont une meilleure équipe que les Spurs. Enfin, surtout les lignes arrière, c'est pour ça que je regardais les matchs et en fait, quand je vois le calendrier, moi je pense que ce sera même pas le match le plus intéressant de la nuit.
Après, tu vois, Vivien, on en parlait hier soir après l'émission, c'est que l'absence de Devin Vassell chez les Spurs, c'est une perte terrible.
C'est ça, exactement.
Parce que même si voilà, on a pu être moqueur avec la ligne arrière des Spurs, Devin Vassell il apporte beaucoup. Il peut aller au panier aussi, il peut shooter à 3 points, c'est un bon défenseur. Donc, mais pour revenir au duel Gobert-Wembanyama,
il y aura d'autres matchs, mais c'est vrai que c'est le duel.
L'idéal pour Wemby, ce serait de réussir à faire sortir Rudy de la raquette. Exactement. Parce qu'on sait très bien que Rudy Gobert, pour défendre en dehors de la raquette, n'est pas trop à son aise. Wemby, il est très fort technique. Il a progressé, certes, mais ça reste quand même pas son atout numéro 1. On voit que Wemby est très à l'aise techniquement avec la balle, il bouge très très bien pour 2m23.
On a jamais vu ça, on peut le dire.
Et d'essayer de l'emmener mid-range ou sur la ligne à 3 points, d'arriver à faire sortir Rudy de sa zone de confort, ça pourrait derrière permettre à un Jeremy Soran de s'incruster dans la raquette ou un autre comme Keldon Johnson par exemple.
Ah, bien sûr.
Ouais, vous faites plaisir à mal d'auditeurs, hein, je tiens à le rappeler. Hein, c'est du haut niveau ce soir, la NBA sur Beurre FM. Non, c'est vrai.
C'est le All-Star Game.
Ouais.
Mais
on termine avec Vivien et Sofiane.
Juste, faut quand même rappeler, parce que là on dit il n'y a pas match, parce que c'est les Wolves, machin. Faut rappeler déjà que dans un premier temps, les Spurs, ils sont pas là pour jouer le titre, ils sont pas là pour jouer les playoffs cette saison, ils sont là pour prendre du rythme, pour donner du temps à Wembanyama, qui s'installe au fur et à mesure. Enfin, si les Spurs vont en playoffs, c'est un exploit. Enfin, qu'on se le dise aussi.
Il part quand même
Wembanyama là, dans une équipe qui est la pire défense de NBA et la deuxième pire attaque de NBA.
Les Spurs, là où je te rejoins, c'est que s'ils gagnent 25-30 matchs cette saison, c'est déjà très bien.
C'est déjà exceptionnel. Et c'est même pas ce qu'on leur demande au final. On veut juste voir du bon Wembanyama, que collectivement, avec des Keldon Johnson, avec des Jeremy Soane, ça commence à s'installer, des Devin Vassell également, ça commence à prendre forme, qu'il y a une équipe qui commence à se former autour de Wembanyama, qui trouve ses marques en NBA. Et puis au-delà de ça, moi je vous le conseille, à 4h du matin, on a un magnifique Suns Lakers.
Il m'a envoyé ma phrase, c'est ce que je veux dire.
Vas-y, ça me demande. Quand même, on le rappelle, ce qu'on dit, les Spurs favoris, mais ils ont quand même resté sur deux victoires de suite, voilà, sur un back-to-back face aux Suns de Kevin Durant, qui font partie des favoris des contenders au titre final.
Dans ce cas-là, pour aller sur un autre angle, moi je conseillerais plutôt aux auditeurs de suivre les Philadelphia Sixers. Pourquoi? Parce que il y a un joueur africain, Joel Embiid, et on sait que dans la FM on est beaucoup à suivre les joueurs africains.
C'est vrai.
Et puis il y a Nicolas Batum, accessoirement capitaine de l'équipe de France, et ça peut être une équipe un peu surprise en playoff. Quand je dis surprise, ce serait par exemple ce glissant en finale de conférence, ce qu'on n'a pas vu depuis des années par exemple.
Et je voulais revenir avec toi justement sur deux choses. Déjà sur Nicolas Batum, qui depuis qu'il est arrivé aux Sixers a un autre rôle qu'il avait par rapport aux Clippers. Et je trouve qu'il est très bon.
Très bon.
Que ce soit défensivement, on l'a vu prendre des shoots.
Et même offensivement, quand on le voit facilement comme ça, mettre ses 10-15 points. Exactement.
La fois où il était aux Clippers. Donc déjà un grand coup de chapeau pour cette adaptation, parce qu'on sait que voilà, la NBA, ouais, business is business. Il a pas eu son mot à dire.
Ah ben il s'est adapté plus vite que Vitinha.
Rapide, Benji, ouais, rapide, ouais, on a plus le temps. C'est la fin de l'émission.
Il est un peu moins dans ce rôle, comme on dit en NBA, de glouman, c'est-à-dire celui qui va faire le lien entre les différents joueurs, faire l'avant-dernière passe, la dernière place. On le voit prendre un peu plus de responsabilité, que ce soit défensivement, offensivement, comme vous l'avez dit. Et d'ailleurs, sa franchise qu'il a quittée, qui était les Clippers, vont jouer un super match face au Dallas Mavericks également, qui va être hyper intéressant. Voir James Harden qui arrive chez les Clippers, du coup, comment ça s'installe. Et de
Luka Doncic, rapide,
vraiment en 10 secondes, parce qu'on a plus le temps. C'est, je vais juste rappeler, cette semaine, on a eu un très bon match NCAA à Paris, chez les femmes, entre South Carolina et Notre-Dame. Et voilà, la NBA va être au cœur de Paris en janvier, notamment.
On l'espère, en 2024 aussi. Hein. Ouais. On l'espère, hein, dans toute la France, hein, voilà, avec les JO. Un grand merci à Mathieu. Eh oui, c'est terminé, Mathieu. Il est assez déçu, mais il va suivre Montpellier-Nice. Aussi, sans oublier Benji de m'avoir accompagné, et Soufiane aussi, et notre Vivien National.
Dédicace à Amine qui nous écoute. Hein.
Ah ben voilà, Amine qui nous écoute. Aussi, Christian qui nous a écouté, qui reviendra sur cette antenne. Et sans oublier la réalisation. Bravo à toi, Solal. On se retrouve dès lundi, la suite des programmes avec Vanessa qui arrive. Et on se dit bye bye et bon week-end.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.